chronique citoyenne avec Sébastien Saint-François.
Sébastien Saint-François, bonjour. Comment vas-tu?
Ça va bien, hein? C'est pas chaud ce matin.
Et pelin.
Au sol, c'est en Estrie. Il fait encore plus froid ici que chez vous.
T'es depuis l'Estrie, toi, ce matin.
Oui, je suis en Estrie ce matin.
Bon, ce matin, là...
Ramasse des feuilles.
C'est mon dernier... tu viendrais-tu chez nous après? C'est la première journée officielle sans... C'est la dernière journée officielle sans chaussettes dans les souliers. J'en ai parlé très tôt
ce matin. On nous annonce plus chaud en fin de semaine. C'est supposé remonter.
Dès demain.
On parle de
20-21. Oui, dès demain, là, ça passe.
Correct encore quelques jours, je pense.
Sans chaussettes?
Probablement en fin de semaine.
Hein? On va regarder ça, je vous tiens au courant. Ballon politique, pas de médecin de famille pour les Québécois en santé.
Écoute, c'est sorti, je pense, c'est vendredi, le lendemain de ma chronique de la semaine dernière. Écoute, ça m'a estomaqué quand j'ai entendu ça. Je sais pas si c'est un gros ballon politique, mais ça a l'air qu'il y a un rapport qui a été préparé par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux qui indique que nous étions en 2022-2023, et j'utilise « nous » parce que je fais partie du nombre sans médecin de famille, nous étions 2,1 millions de Québécois dans cette situation-là, dont 500 000 Québécois malades, donc dont la santé est chancelante ou mauvaise. Moi, ce que ça m'indique, c'est qu'on ne sait vraiment pas comment solutionner le problème. Parce que rappelons-nous, François Legault, c'était une de ses grandes promesses lorsqu'il a pris le pouvoir à l'élection de 2018, qu'on était pour chacun avoir son médecin de famille. Donc, un médecin de famille pour tous les Québécois. On se rend compte que c'est carrément utopique. Là. Un, il n'y a pas assez de médecins de famille au Québec parce qu'on a longtemps favorisé ou promu, disons, la médecine spécialisée. Hein. Les étudiants en médecine sont très nombreux à choisir une spécialisation parce que la médecine de famille, c'est pas glamour. Donc, on a
Attention, pas juste pour ça. Là. Il y en a qui ont un intérêt pour d'autres disciplines aussi, il faut le dire. Mais bon, peu de gens veulent devenir omnipraticiens.
C'est ça. C'est rare. C'est pas un choix premier dans la tête de bien des étudiants en médecine. Et donc, on a aussi toute la question des salaires, de la charge de travail, la répartition du personnel. Bon, on se rend compte que c'est pas vrai. Puis c'est désolant un peu. Puis j'entendais des chroniqueurs, des commentateurs cette semaine, pas plus tard que hier ou avant-hier, dire avec tout l'argent qu'on pompe dans le système de santé, qu'on soit rendu à dire, c'est seulement les... On va réserver nos médecins de famille aux gens malades. Moi, je suis de l'école et c'est pour ça que je consulte au privé puis je sors de l'argent de ma poche. Que vaut mieux prévenir que guérir. Donc, moi, j'aime bien me faire un bilan annuel, faire surveiller mon taux de cholestérol comme tout le monde. Je prends des statines pour mon cholestérol. Tu sais, les gens qui se font pas, entre guillemets, checker, c'est les gens qui vont se ramasser du jour au lendemain avec quelque chose qui va pas. Ils consultent le médecin, se rendent compte que le cholestérol est dans le plafond, qui ont un cancer, peu importe. Moi, je trouve que c'est important de se faire vérifier à intervalles réguliers. Est-ce que c'est par année ou deux ans, peu importe, ça, c'est à chacun de décider. Fait que, tu sais, de dire on va réserver les médecins de famille aux gens malades, est-ce qu'on est vraiment rendu là au Québec? Si oui, on a de sérieux problèmes, encore pire qu'on pensait, là, dans notre système de santé. Oui,
tout à fait. Donc, on va regarder ça. Évidemment, je comprends qu'il faut y avoir un certain ordre de priorité.
Oui,
mais en même temps, je comprends toute l'idée. Il y a beaucoup d'enjeux qui se jouent là-dedans. Des gens qui n'ont pas pris soin de leur santé aussi, ils tombent très malades, puis eux autres ont des médecins. Alors que c'est pas au mérite que ça se décide. Je comprends toute l'idée, n'appelez pas à la station. Mais il y a matière à réflexion de ce côté-là. Comment gérer cette affaire-là qui me semble, ma foi, ingérable à quelque part.
On voit, c'est ça. J'ai l'impression que le gouvernement en a plein les bottines, puis c'est pas trop comment sortir de tout ça. M. Dubé, il fait de vaillants efforts, M. Dubé, le ministre de la Santé, mais on voit que c'est excessivement complexe.
Et je comprends qu'une des solutions très, très tentantes, puis c'est ce vers quoi on pense de plus en plus, c'est le privé. Donc, à suivre de ce côté-là.
C'est le problème fondamental que la moitié de nos impôts qu'on envoie à Québec servent à financer la santé. Et puis, de plus en plus de Québécois sont obligés de se tourner puis de sortir de l'argent de leur poche pour aller au privé. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans.
À suivre. En attendant, les Kings de Los Angeles sont venus à Québec la semaine dernière. Quel match fabuleux!
Ben, j'ai pas écouté le match parce que je suis pas un fan de hockey. C'est
moi
rare que je parle d'ailleurs de hockey dans mes chroniques.
Moi non plus, je
mais c'est une nouvelle qui a capté mon attention. C'est Monsieur Bettman, le commissaire de la LNH, qui aurait dit que malgré le succès de ces matchs-là, ça a l'air que ça a été quand même un franc succès.
Ben, semble-t-il, 17 000 personnes à chacun des matchs, même si des gens ont dit, mais ça me semble qu'il y avait des places de libre, en tout cas.
Mais c'est quand même pas rien, 17 000 oui. spectateurs. Bon, rappelons-nous que le gouvernement a déboursé jusqu'à 7 millions de dollars pour ces matchs-là. Mais M. Bettman, ça ne l'a pas impressionné plus qu'il faut, parce que c'est dans le cadre d'un potentiel retour des Nordiques à Québec. Alors, on est loin du compte, je pense, à écouter les commentaires de M. Bettman. Mais encore faut-il se poser la question. Tu sais, c'est beau. On avait M. Péladeau qui avait manifesté son intérêt de se porter acquéreur d'un club. Mais il faut dire aussi que les prix des clubs de hockey ont monté en flèche comme
tout.
Rendu astronomique. Là, les données des chiffres l'autre jour, les Sénateurs, ça s'est vendu 1 milliard. L'année passée ou l'année d'avant. On est dans des gros montants.
Oui, puis racheter une équipe existante puis la déménager coûte moins cher que d'avoir une équipe de l'expansion. Puis c'est ce que M. Péladeau voulait éviter. Puis je pense que M. Bettman lui a dit, je me souviens dans mes lectures d'avoir vu ça, que M. Bettman lui a dit s'il y a une équipe qui vient à Québec, ça ne sera pas dans le cadre d'un déménagement à M. Péladeau. Alors là, ça change la donne. T'sais.
Ça change la donne. Ouais. Écoutez, M. Bettman, l'autre jour, en entrevue, on est loin d'un retour du hockey à Québec, malheureusement.
Oui.
Et j'espère que le ministre des Finances ne misait pas sur ça pour dépenser 7 millions de dollars en fonds publics pour les matchs des Kings. Parce qu'on sait que toute la controverse que ça a suscité dans les semaines et les mois qui ont suivi, si c'était dans son calcul, c'était mal calculé.
Ben, M. Bettman a dit en début de semaine, il dit, je les aime bien, les gouvernements de tous les endroits, de tous les états, de tous. Eux autres qui achètent au final. Donc, je peux lui parler tant que vous voulez, mais il n'y a pas de propriétaire qui se manifeste. C'est de même.
Il a raison là-dessus, par contre. C'est bien beau parler avec les élus, mais c'est pas les élus qui vont acheter un club de hockey, même si M. Legault il a acheté un beau chandail du Canadien. On a appris ça sur...
À 1 300 $, mais c'est pour ceux qui suivront, semble-t-il.
Ouais,
qui vont avoir le beau cadre de Guy Lafleur signé.
Sinon, il s'est engagé à le payer de sa poche. S'il part avec.
On est-tu content? Révolte en préparation pour évincer M. Trudeau. Maintenant, ça se met dans son dos, à se préparer.
Ben oui, on parlait d'une vingtaine de députés. On serait rendu hier à 27, selon ce que j'ai entendu à la télé. Donc, principalement des députés des provinces atlantiques et du sud-ouest de l'Ontario. Bon, c'est des députés d'arrière-ban. C'est sûr que les ministres, j'entendais Mme Joly hier sur les ondes de Patrice Roy, qu'elle a dit non, mais tu sais, c'est sûr que les ministres, ils réitèrent leur confiance dans le premier ministre. Pis c'est ça. Mais elle a comment entrouvert une porte en disant, en réponse à une question de Monsieur Roy, ce sera à lui de prendre sa décision. Alors qu'elle lui donne son soutien, et M. Trudeau a déjà dit, non, moi, je suis ici pour rester. Donc, j'ai l'impression que ça commence à grenouiller pas mal dans le caucus. Il y a quelques députés qui se sont affichés publiquement, dont un député de l'Île-du-Prince-Édouard hier, qui a carrément...
Oui, j'ai entendu,
demander Sean, quelqu'un, je me souviens pas de son nom de famille, qui a carrément demandé
Sean
ça à son départ. Oui, c'est ça, Sean Casey. Alors, écoute, ben là, hier, c'est sûr que M. Trudeau, il a été habile. Ben habile. Il a changé dans la commission sur l'ingérence étrangère. Donc, il a sorti l'histoire. Il y a des députés conservateurs dans la liste que j'ai consultée qui auraient fait l'objet d'ingérence étrangère, qui auraient participé. Donc là, c'est Poilievre qui est pris avec ça.
Oui, parce qu'il y a une cote de sécurité là, à aller chercher. Si
ouais, mais
il va
lui,
la chercher,
veut pas y aller. Il veut pas aller la chercher. Prétexte que s'il va la chercher, ensuite, il ne pourra pas parler, il est muselé. Par contre, en ce moment, Poilievre est mal placé parce qu'il ne peut pas agir. Donc, Trudeau va fesser sur ce clou-là, dire, bien là, regardez, Poilievre, il ne veut pas faire le ménage dans son parti. Moi, je vous dis qu'il... Puis là, il s'accuse de... Poilievre accuse Trudeau de mentir puis il lui dit, bon, mais si c'est vrai, parce que moi, je n'ai jamais entendu parler de ça, ni mon chef de cabinet, mais sortez-moi les noms parce que je veux savoir, mais c'est pas de même ça fonctionne.
C'est jubilatoire, j'adore ça, moi, Sébastien.
En tout cas,
ce genre de piège-là de ça rebondit, ça va pas toujours dans le même sens.
Non, ça va pas toujours dans le même sens.
C'est pas partisan du tout ce que je dis. C'est pas partisan, mais j'aime ça quand quand il y a une réponse, puis quand il y a un piège qui est tendu, puis quand va voir, puis si tu vas voir qu'il y a du monde de ton clan également, mais tu pourras pas me poser de questions là-dessus. C'est le prétexte.
Ça va être intéressant à suivre dans les prochains jours, parce que c'est vraiment... Écoute, première des choses, la situation avec l'Inde, là, ça va pas bien là, entre le Canada et l'Inde, ça, c'est clair.
Non.
Et on misait beaucoup sur l'Inde. Oui, on misait beaucoup sur l'Inde comme option de rechange à la Chine pour le commerce, parce qu'on sait qu'on a des problèmes aussi en Chine depuis plusieurs années.
Les relations entre
les deux pays sont pas très bonnes.
Les Indiens ont des problèmes avec les Américains, mais on pardonne plus facilement puis on n'éjecte pas des diplomates nécessairement quand on se fait soincer.
Sûr que nous, on est un tout petit joueur.
C'est ça.
Canada.
Donc, nous autres, on peut taper sur nous autres plus facile.
C'est plus facile, mais il faut aussi se rappeler que, il donnait les chiffres hier, la population sikh au Canada est la plus importante au monde à l'extérieur de l'Inde. Ouais. C'est 700 000 personnes. Et on sait qu'il y a beaucoup de conflits en Inde entre...
Beaucoup de sikhs
sont considérés comme des terroristes.
Ouais, ils revendiquent un pays, le Khalistan, là.
Exactement. Donc, c'est sûr que ça n'aide pas les relations entre nos deux pays. M. Singh, le chef du NPD, est sikh, alors.
Oui.
Et donc, ça complique les choses davantage.
Oui, à suivre. Voilà, on termine ça avec la France. La France pourrait-elle faire faillite?
Ben oui, un titre qui choque un peu. On parlait de la France dans le journal cette semaine. C'était juste pour établir. Je voulais en parler parce que tu sais, on dit souvent que le Canada, on est loin des autres pays, puis on a un bon ratio PIB dette. Mais il faut toujours faire attention. La France, on dit que c'est le troisième pays le plus endetté de l'Union européenne après l'Italie et la Grèce. On sait que la Grèce, ça ne va pas très bien. On parle de déficit qui atteint en 2024 7% du PIB, alors qu'on veut garder ça sous le seuil des 3%. Puis là, on est rendu en France, puis c'est pour ça que je fais un parallèle avec chez nous dans une certaine mesure. C'est qu'on parle pour équilibrer des choses, il faut aller chercher des économies de 60 milliards d'euros. Et on parle soit de réduire, pas soit les deux, réduire les dépenses publiques, hausser les impôts des mieux nantis. Ce sont des discours qu'on entend au Canada.
Ouais.
Et quand j'entends, tu sais, qu'on s'est rendu qu'on songe à limiter les médecins de famille aux gens qui sont malades, on a des choix déchirants à faire ici aussi. Donc, tu sais, oui, on peut bien se dire qu'on a un ratio PIB dette plus favorable qu'ailleurs, mais l'argent ne coule pas à grand flot au Canada non plus, ni au Québec. Et on a des choix difficiles à faire en matière de dépenses publiques. Alors, tu sais, moi, j'aime toujours être prudent. Puis quand j'entends le discours de gens comme Trudeau et sa ministre des Finances, dire non, il ne faut pas s'inquiéter chez nous, ça va bien. Ça ne va pas si bien que ça, puis il faut faire attention. Parce que, tu sais, la France, quand même, c'est un grand pays d'Europe, mais ils ont des gros problèmes aussi. Et j'aimerais pas ça qu'on se rende là un jour, là, tu sais.
Ouais. Donc, on va faire attention, je te le promets, Sébastien.
Faut toujours faire attention. Oui. Faut toujours penser à venir et arrêter de dépenser comme si l'argent...
Oui, puis se construire un bunker.
Ouais, c'est
ça. On va commencer ça, là. Rentre tes feuilles puis construis un bunker en dessous.
Ouais, je vais faire ça pour me protéger.
Merci, Sébastien. À la semaine prochaine.
Salut, à la semaine prochaine.